L'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Mesdames, messieurs, salut et bienvenue pour suivre ce Radio Journal. Le fil de l'information en deux titres, l'année scolaire 2026-2027 débute officiellement ce mardi 2 septembre au Sud Kivu et sur l'ensemble du territoire national. Dans une rencontre tenue avec les parents et animateurs du secteur de l'éducation en province, le gouverneur du Sud Kivu sous la FSAM23, Patrick Kabusu-Bwangui, a demandé aux écoles de privilégier les meilleures conditions d'apprentissage. Au moins 23 civils sont décédés et 17 blessés dans les affrontements qui ont opposé les forces armées de la RDC aux troupes de l'AFC-AM-23 Tulaneo du 10 au 27 août dernier dans le secteur d'Itomwe en territoire de Mwingam. Ce bilan a été dressé par le conseil local de la jeunesse d'Itomwe qui plaide pour une cessation des hostilités. Voilà donc tout pour le sommaire, dans quelques instants les détails.
Ce journal vous est présenté par Expedia Kialo.
Commençons par cette information. 3 morts et 2 blessés, bilan provisoire d'un accident de la circulation qui a été enregistré hier avant midi vers 9h non loin des Mugogo en territoire de Walungu, précisément à l'endroit dit Kaanda Musisi. Un véhicule de marque Probox en provenance de Chirano pour la ville de Bukavu avec toute une famille à bord a connu un tonneau dont la cause n'est pas élucidée. Au lieu de l'accident, 2 personnes sont décédées dont une fillette de 13 à 14 ans et leur corps conduit à l'hôpital mère-enfant de Mugogo. 3 autres personnes blessées ont été amenées dans la même structure qui, constatant des fractures crâniennes chez 2 d'entre elles, a décidé de les transférer urgemment à l'hôpital provincial général de référence de Bukavu. De ces 2 patients, un est décédé aux urgences de l'hôpital général de référence de Bukavu et un autre est toujours pris en charge sur place selon des sources hospitalières contactées par Radio Mandeléo. Un autre patient dans un état moins grave est resté sous la charge de l'hôpital mère-enfant de Mugogo, précise les mêmes sources. Et parlons assainissement à présent, le maire de la ville de Bukavu sous la FCM23, Nicolas Kialangaliloa, appelle l'entreprise Green Life engagée dans le ramassage et l'évacuation des déchets et aux autres partenaires intervenant dans l'assainissement de la ville de Bukavu à renforcer leur travail et à respecter le programme de collecte établi par la municipalité. Dans une communication à la presse, le maire de Bukavu appelle Green Life et ses partenaires à un travail bien fait pour assainir la ville. En quoi le maire, rendre à Bukavu sa beauté ne relève seulement pas de l'action des pouvoirs publics. Il appelle chaque habitant à devenir acteur de l'assainissement, entre autres en s'abonnant aux entreprises d'évacuation, en respectant les programmes d'évacuation, en participant aux travaux communautaires et surtout en évitant de transformer les rues et autres espaces publics en dépotoirs. Au-delà des opérations ponctuelles, le maire dit avoir pour ambition d'installer une véritable culture de propriété dans la ville de Bukavu sous la vision de l'AFSAM23. Dans la foulée, nous venons de l'apprendre, le gouverneur du Sud Kivu sous l'AFSAM23, Patrick Busubwangui, annonce la suspension à titre provisoire et conservatoire pour une durée de 30 jours de tous les services engagés dans le secteur de l'assainissement dans la ville de Bukavu. Désormais, ces services sont placés sous la coordination directe de la province et non de la mairie comme avant. Le gouverneur annonce dès ce 1er septembre la mise à la disposition de la ville de Bukavu des 50 grands camions qui se chargeront pendant la période transitoire du ramassage et le transport des déchets vers la décharge publique de Mumucho. Pendant ces temps, la population de Bukavu sera exemptée du paiement des frais d'évacuation des déchets qui seront pris en charge par la province, à l'exception des frais d'identification des ménages, évalués à 3000 francs congolais payables à la CADECO, moyennant délivrance d'une quittance, précise la cellule de communication du gouvernorat de province. Les écoles de la ville de Bukavu et de ses environs ouvriront bel et bien leurs portes ce mardi 1er septembre 2026. Conformément au calendrier scolaire, le gouverneur, sous la FSAM23, Patrick Busubwangui, l'a confirmé lundi 31 août 2026 au cours d'une rencontre avec les animateurs du secteur éducatif et les parents au collège Alpha Djiri. Détail avec Omer Moudekereza.
Au cours de cette rencontre, Patrick Busubwangui Chombo a notamment interdit aux écoles d'imposer aux parents l'achat des uniformes et fournitures scolaires dans leurs établissements. moment, les parents doivent rester libres de choisir où s'en approcurer, a-t-il indiqué, précisant que les chefs d'établissement qui violeront cette instruction seront interpellés. Le gouverneur interdit également l'exclusion des élèves pour retard des paiements des frais scolaires durant cette année et appelle les responsables à privilégier les dialogues avec les parents. Patrick Boussou-Bouangui demande par ailleurs à tous les établissements d'ouvrir des comptes à la CADECO afin de garantir la transparence et la traçabilité des ressources financières. Il insiste enfin sur la régularité des enseignements, la discipline, la salubrité ainsi que l'accès à l'eau et à l'électricité. La gratuité de l'enseignement primaire public demeure en vigueur, a précisé Patrick Boussou-Bouangui.
Nous demandons aux chefs des établissements scolaires de ne pas obliger les parents à acheter les uniformes dans leurs écoles. Les parents, vu la situation aujourd'hui, peuvent s'enquérir de ces uniformes partout où ils veulent. Donc la gratuité de l'école primaire est d'actualité et toutes les écoles et tous les chefs des établissements sont priés de mettre en place ces mesures. Et tous les établissements scolaires ont l'obligation d'ouvrir des comptes à la CADECO qui va leur permettre aussi des fois à pallier à certains problèmes financiers qu'ils ont.
De leur côté, les participants ont salué les décisions annoncées par les gouverneurs. Ils ont profité de l'occasion pour présenter les difficultés auxquelles font face les établissements scolaires, notamment les factures jugées exorbitantes de la régie des eaux et de la SNEL. L'un des participants, Séraphin Tchigondo, en parle.
Pour améliorer le fonctionnement des écoles, il y a eu certains chefs d'établissement qui ont demandé à ce que les gouvernements de la province puissent prendre des mesures afin que ces écoles ne puissent pas être gênées par des gens qui font des tapages diurnes comme nocturnes, des gens qui construisent tout autour des écoles et au lieu de canaliser les eaux usées dans des endroits appropriés, ils les laissent, n'est-ce pas, couler sur la cour de l'école.
À l'issue de la rencontre, les acteurs éducatifs ont été appelés à mettre en œuvre ces orientations, tandis que les services compétents devront veiller à leur respect sur le terrain.
Et l'Association nationale des parents d'élèves et étudiants du Congo Anapeko en sigle s'est réjouie de la décision des enseignants de reprendre le chemin de l'école mardi 1er septembre en conformité avec le calendrier scolaire. Dans une déclaration signée par son président national et représentant légal Diate Zouampongi David, l'Anapeko demande au gouvernement de trouver une solution aux difficultés que rencontrent les enseignants avant d'accéder à leur salaire via certaines banques. L'association estime que ces problèmes accentuent les tensions entre les enseignants et leurs employeurs avec des conséquences sur les élèves et leurs parents. L'Anapeko appelle également les parents à envoyer leurs enfants à l'école dès ce mardi 1er septembre et considère le dialogue national comme une opportunité pour permettre au peuple de contribuer à la réorientation de la politique sociale du pays. Augustin Batandi, président provincial de l'Anapeko Sud Kivu, revient sur certains éléments de cette déclaration dans cet extrait.
Nos parents d'élèves étudiants du Congo, nous sommes réjouis de la décision des enseignants qui ont trouvé que la place de l'enfant c'est à l'école et non à la maison. Nous demandons à tous les parents d'envoyer les enfants à l'école dès ce mardi 1er septembre 2026 et savoir que la place de l'enfant c'est à l'école et non à la maison. Et donc j'encourage tous les parents d'envoyer les enfants à l'école et aussi bien que le problème qui a surgi des uniformes, des cahiers, mais que les enfants rentrent vraiment à l'école comme prévu par le calendrier scolaire 2026-2027.
Augustin Batandi, président provincial de l'Anapeko Sud Kivu, au micro de Radio Mandeleo. Et le collectif des citoyens engagés pour l'éveil patriotique, COSEPRDC, en sigle demande au gouvernement congolais et à l'AFSAM23 de dépolitiser le secteur éducatif congolais. Cette structure le fait savoir dans un communiqué de presse rendu public et dont copie nous est parvenue lundi 31 août 2026. Dans ce communiqué, cette organisation fait savoir que la situation sécuritaire liée à la guerre impose des mesures de protection en faveur de certaines couches, comme les étudiants, les enseignants et les infrastructures académiques. Elle estime que la mesure prise au niveau national risque de compromettre l'année académique, favoriser les abandons et sacrifier l'avenir intellectuel des jeunes de Goma et Bukavu. Le collectif des citoyens engagés pour l'éveil patriotique, COSEPRDC, estime que la jeunesse ne devrait pas être victime des exactions de la guerre et des décisions administratives dont elle n'est pas partie prenante. Écoutons ces sujets. Le chargé des communications et médias du COSEPRDC, Mouroula Metima Charles.
S'il faut orienter les étudiants régulièrement inscrits dans d'autres établissements répondant aux exigences légales comme par exemple à Beni, à Butembo, à Uvira, le COSEPRDC s'interroge de la prise en charge de ces déplacements des étudiants, leur logement et leur séjour dans ces zones jugées non affectées par les conflits. Alors que les négociations entre l'AFC-M23 et le gouvernement congolais se poursuivent à Doha et Washington, et tous les deux ont toujours assuré l'opinion nationale et internationale de leur attachement à la paix et à la démocratie, au regard de ce qui précède, l'ECOSEP-RDC appelle le gouvernement congolais et la coordination de l'AFC-M23 à dépolitiser le système éducatif à tous les niveaux et recommande la levée des différentes mesures afin de ne pas laisser la guerre devenir une cause supplémentaire de destruction de l'avenir de la jeunesse.
Et sur le terrain des affrontements du 10 au 27 août 2026, au moins 23 personnes ont été tuées, 17 grièvement blessées et au moins 6 villages incendiés dans des combats opposant les troupes de l'AFC-M23 tout l'année aux forces armées de la RDC et leurs alliés dans le secteur d'Itomboué en territoire de Mwenga au sud de Kivu. Ces chiffres sont livrés par le conseil local de la jeunesse d'Itomboué au terme d'un monitoring réalisé sur l'état de la zone depuis la reprise des hostilités. Les détails avec Alain Kabika.
Ces combats qui s'étendent également sur les moyens plateaux des territoires d'Ouvira et les hauts plateaux du territoire de Fizi ont provoqué d'importants mouvements des populations qui ont choisi de se réfugier dans la forêt d'Itomboué ou encore vers les villages jugés plus ou moins sécurisés. Déjà le week-end dernier et jusqu'à dans la matinée de lundi 31 août 2026, l'axe Kipupu-Mikenge a été le théâtre des violents affrontements entre les deux antagonistes jusque vers l'espace dit Filon 14, toujours dans les massifs d'Itomboué. Le conseil local de la jeunesse d'Itomboué fait état d'au moins 1100 ménages, soit plus de 6000 personnes en situation de déplacement dans la brousse ou encore dans les villages d'accueil dans cette partie du site Kivu. Son président Mufariji Lewis condamne les retours à une telle violence sans tenir compte de la souffrance que traverse la population dans ces contexte. Pourtant, des accords au sujet du cessez-le-feu ont déjà été signés. Tout en plaidant pour un soutien de la part des organisations humanitaires, celui-ci plaide pour la cessation des hostilités afin de permettre un retour sécurisé des populations déplacées dans leurs villages d'origine. Mufariji Lewis en parle.
Beaucoup de familles se trouvent dans les forêts d'Itomboué et il n'y a pas l'assistance, ni en médicaments, ni en vivres et en eau vive, parce que certaines familles ont laissé tout dans les maisons et toutes les maisons ont été incendiées. Les centres de santé qui ont été incendiés, les postes de santé, les écoles, et cette situation met en danger la vie des populations civiles qui se trouvent actuellement dans les forêts. Pas les activités commerciales ont été perturbées, les activités scolaires aussi, toujours perturbées. D'où le conseil local de la jeunesse d'Itomboué condamne fermement ces attaques de bombardement par drone qui bombardent aveuglément le village de paisibles citoyens. La nuit du 30 au 31, il y a eu les attaques et aussi l'ennemi. Et nous demandons à tous les partis de respecter les accords de cessez-le-feu où nous prenons aussi les communautés internationales en témoin. Ce qui se passe dans les hauts plateaux et le secteur du Tombo en particulier, c'est une génocide.
Du côté point zéro dans les territoires de Fizi, des sources annoncent la poursuite des bombardements à l'aide des drones et autres mortiers. Une situation qui continue de provoquer la panique et de nouveaux déplacements des populations. Sur d'autres fronts comme à Kastika à Mwinga, l'on rapporte un mouvement avec des tentatives de débordement des combattants Wazalendo, alors que sur l'axe Shabunda, une accalmie bien précaire s'installe, mais la circulation des motos et véhicules reste suspendue.
Chaque jour, elle se mobilise pour offrir à ses auditeurs et auditrices des informations à temps réel. Notre principale détermination, c'est de vous servir. Nous, c'est Radio Maendeleo. Plus et mieux pour et avec ses auditeurs.
Nous changeons de chapitre à présent. Les tradis praticiens de la province du Sud Kivu devraient être capables de reconnaître les principaux signes de la maladie à virus Ebola afin d'alerter rapidement les services de santé en cas de suspicion. Le but est de favoriser une détection précoce des cas suspects et de limiter les risques de transmission au sein des communautés. Message lancé lors d'une activité de sensibilisation organisée à l'intention des praticiens de la médecine traditionnelle à l'occasion de la même journée. Détail avec Myriam Mofa.
Aimé Domoengue, coordonnateur provincial des tradis praticiens au Sud Kivu, indique que cette initiative vise notamment à renforcer les connaissances des tradis praticiens sur la conduite à tenir face à une personne présentant des signes de la maladie à virus Ebola et encourager l'orientation rapide des cas vers des structures sanitaires. À la même occasion, le chef des bureaux en charge des tradis praticiens à la division provinciale de la santé au Sud Kivu a fait observer que plusieurs tradis praticiens ne sont pas encore enregistrés auprès des services compétents et exercent leur métier sans encadrement suffisant. Il souhaite voir un meilleur suivi et une organisation plus rigoureuse dans ces secteurs afin de garantir la sécurité des patients, améliorer la collaboration avec les structures sanitaires et lutter contre les pratiques à risque. Il appelle également les tradis praticiens à respecter les normes sanitaires et à signaler sans délai tout cas suspect aux professionnels de santé.
Les tradis praticiens doivent d'abord être informés sur les signes que présente quelqu'un qui est déjà contaminé par la maladie à virus Ebola. Une fois le tradit praticien est sensibilisé, il connaît les signes de cette maladie, il peut appeler l'équipe d'intervention. Et là, on a partagé les numéros verts. Entre autres piliers, j'ai parlé également de la PCI, la façon dont un tradit praticien doit se comporter pour se protéger. Comment il s'habille? Est-ce qu'il a des gants, il a des masques, il se protège face à un cas comme ça? Ils ne doivent pas rester dans l'ignorance.
De leur côté, les participants saluent cette initiative. Ils s'engagent à mettre en pratique les connaissances acquises en orientant les personnes en présentant les signes suspects vers les structures habilitées afin de contribuer à la prévention de la maladie. L'un d'eux, professeur docteur Marcel Suedi, en parle dans cet élément.
À ce qui est d'alerte, nous avons pris prendre dans ce pas aussi les numéros d'alerte, les numéros verts, comme on l'a appelé. On n'était pas du tout informés sur ça. Mais comme nous sommes informés, nous tâcherons si une fois nous avons un cas pareil. Quoique nous pouvons apporter quelque chose comme un remède, mais nous devons collaborer aussi avec ce pas, les gouvernements, et on informe, on signale pour qu'on essaie un peu de ce pas d'évaluer.
Signalons que cette activité a réuni plusieurs tradis praticiens de la province du Sud Kivu. Les thèmes retenus pour cette année est rôle clé des tradis praticiens pour couper la chaîne des transmissions de la maladie à virus Ebola.
Pendant ces temps, la médecine traditionnelle et la médecine moderne devraient être complémentaires afin d'améliorer la prise en charge des patients et valoriser les savoirs médicaux locaux. Ceci passe notamment par un dialogue renforcé entre praticiens, la formation des acteurs, l'encadrement des pratiques traditionnelles et la collaboration entre les structures de santé. C'est ce que pense Samouloume Théophile, chercheur en phytothérapie à l'occasion de la Journée africaine de la médecine traditionnelle célébrée chaque 21 août de l'année. Et pour lui, la médecine traditionnelle joue un rôle important dans l'accès aux soins, particulièrement pour les populations qui disposent des moyens limités ou qui vivent dans des zones éloignées des structures sanitaires. Elle contribue également à la préservation des connaissances médicinales ancestrales et à la valorisation des ressources naturelles. Le chercheur ajoute que le conflit entre médecine traditionnelle et médecine moderne ne devrait pas exister, mais plutôt laisser place à une collaboration fondée sur la complémentarité, l'échange d'expériences et le respect des normes sanitaires. Mouloume Théophile souhaite ainsi voir davantage d'initiatives communes entre chercheurs, praticiens traditionnels et professionnels de santé dans le but de sécuriser les pratiques, renforcer la recherche sur les plantes médicinales et offrir aux patients des soins plus accessibles et mieux adaptés à leurs besoins. On l'écoute.
Je recommanderais que ceux qui sont dans la médecine moderne comprennent que nous sommes aussi au travail comme eux. Il n'y a pas de danger parce que parmi les tradis praticiens, il y a des techniciens. Il y a des techniciens des chercheurs. Et d'ailleurs, chez eux, il n'y a pas de chercheurs. Une collaboration directe parce que, mais nous, nous cherchons et nous traitons. Il y a des infiltrés, ceux qui ne veulent pas être cadrés. Et je leur dirais de venir, premièrement, être formés et intégrés à la plateforme des tradis praticiens. La porte est grandement ouverte pour eux.
Il est également nécessaire d'accompagner la recherche afin de mieux évaluer les propriétés thérapeutiques des plantes médicinales et d'identifier celles pouvant être intégrées aux soins modernes, conclut notre source. Enfin, structure à présent, les travaux de canalisation du collecteur Kawan en cours d'exécution à la place de l'indépendance dans la ville de Bukavu se poursuivent malgré des petites perturbations causées par les dernières pluies qui se sont abattues sur une grande partie de la ville de Bukavu la semaine passée. La précision est de l'ingénieur Gentil Bagunda, chargé des dix travaux au cours de l'entretien accordé à Radio Mandeléo. Le point avec Hélène Boudjiriri.
À l'en croire, les pluies ont un peu perturbé les plans de finissage à cause des eaux, des ruissellements et les déchets charriers qui ont provoqué les débordements des eaux. Néanmoins, indique-t-il, les travaux d'évacuation des déchets, la fixation des rayons, les décoffrages ainsi que la voile des parois des pieds droits du collecteur évoluent normalement. Dans un mois et demi, les travaux pourraient être achevés et les passages réouverts à la circulation sur la chaussée principale. Gentil Bagunda en parle.
Kazi inaendelea vizuri kama Lipangiwa, sauf que kuko ma perturbation.
Les travaux évoluent normalement, sauf qu'il y avait des perturbations causées par des pluies, mais ça ne causera pas beaucoup de retard. Nous allons tout faire pour nous rattraper et dans 7 jours, nous allons poursuivre normalement avec les travaux comme d'habitude. Les travaux seront achevés dans un délai d'un mois et demi comme prévu.
Entre-temps, les passages laissés juste à côté au profit des piétons deviennent de plus en plus impraticables. Alors qu'il est exigu, ces passages est désormais le siège des dizaines de vendeuses et vendeurs qui les transforment en marché pirate. En plus des vendeuses et vendeurs, des restaurants de fortune exerçant à ciel ouvert y ont été installés au point que les piétons sont désormais obligés de se faufiler pour espérer trouver passage, et cela dans les bruits des mégaphones et voix des vendeurs et vendeuses qui vantent ou parlent de leurs marchandises ou encore des prédicateurs avec leurs lance-voix et tambours. Dans la soirée tout comme pendant la journée, des personnes de mauvaise foi profitent alors de ces désordres pour dérober les biens des passants tout comme de ceux qui y exercent. Rencontrés sur place, les usagers plaident pour la fin urgente des travaux afin de limiter ces désordres et veulent l'implication de l'autorité pour réglementer l'exercice des activités à cet endroit. Cette dame en parle.
Nous souffrons énormément suite à la fréquentation du chemin. Étant petit, il est fréquenté par un grand nombre de personnes. Cela occasionne des cas de vol. Ici, une personne a perdu des fournitures scolaires qu'on l'a volée à cause des embouteillages. Nous plaidons pour que ceux qui effectuent les travaux de canalisation fassent le plus vite possible pour rendre disponibles les passages comme auparavant.
D'autres usagers sollicitent aussi la réglementation au sein du parking des véhicules et tricycles qui effectuent les trajets allant de la place de l'Indépendance jusqu'à Bagira ou encore de la place jusqu'à La Boute, un espace également source de désordre sur les Memax.
Et avant la deuxième partie de ce radio-journal, permettre aux enfants orphelins et ceux issus des familles vulnérables de reprendre le chemin de l'école avec dignité, c'est l'objectif d'une campagne de distribution des fournitures scolaires destinées aux élèves de la partie nord du territoire de Kabari. Cette campagne est initiée par la génération Eric Kisangani pour le développement. Elle a démarré dimanche 30 août avec une première distribution réalisée dans le groupement d'Irambi Katana, précisément dans l'enceinte de l'Institut Kabamba Tchigouma. Selon Bahati Nzingabo, coordonnateur de la génération Eric Kisangani pour le développement, les enfants bénéficiaires ont été sélectionnés avec le concours des révérends des églises protestantes de la place, la société civile du milieu et les conseils locaux de la jeunesse de Katana. Le dévolu a été jeté sur des enfants dont les parents sont déjà décédés ou ceux issus des familles qui subissent de plein fouet la crise économique du fait en grande partie de la guerre. Chaque enfant a reçu un paquet constitué des cahiers, des stylos et autres fournitures essentielles pour une rentrée scolaire réussie. En plus de cette donation, les représentants de la génération Eric Kisangani pour le développement ont invité les bénéficiaires à faire preuve de courage et de résilience tout au long de l'année scolaire 2026-2027, malgré le contexte de vie difficile.
La passion du sport, c'est sur les ondes de la radio Maeneleu. Du lundi au samedi, retrouvez toute l'actualité sportive dans sa diversité sur la meilleure des fréquences.
Sport à présent, détecter et encadrer les talents, c'est l'ambition de l'Académie de football à Mani qui a totalisé ce lundi 31 août 2026, 6 mois d'existence. À cette occasion, le directeur sportif de cette Académie de football, Prince Ombeni, a appelé les parents à leur faire confiance en y envoyant massivement leurs enfants. Il fait savoir qu'à ce stade, l'Académie à Mani encadre plus de 80 enfants et dispose d'un staff technique avec 3 entraîneurs. Il loue les efforts consenti par les parents, le président de l'académie Amani Tchikwanine, et confirme l'engagement d'encadrer les talents locaux. Prince Ombeni dans cet extrait.
À ses débuts, nous avons commencé avec un seul entraîneur, coach Trésor Sir Kacha, accompagné de l'encadreur Kito. Leur mission principale était de détecter les talents dans la ville de Bukavu. La première vague de jeunes détectés était majoritairement composée des enfants ici de la commune d'Ibanda, précisément du quartier Pange. Quelques jours après, face à l'intérêt grandissant autour de cette initiative, la vision de l'Académie Amman s'est élargie. La mission de structurer et d'asseoir une véritable académie m'a alors été confiée à ma qualité de directeur sportif. Après une évaluation du travail réalisé par le premier entraîneur, coach Sir Trésor, nous avons décidé d'ouvrir les portes de l'académie aux enfants des trois communes de la ville de Bukavu afin de donner à chacun une chance de développer son potentiel. Trois mois après sa création, nous avons renforcé la structure de l'académie en recrutant plusieurs encadrés afin d'assurer un accompagnement digne et professionnel. Dans cette optique, nous avons confié la direction technique au coach Dunia Safari Kumbao, chargé de mettre en place une méthodologie de travail adaptée aux exigences de la formation sportive moderne. Aujourd'hui, l'Académie Amman compte trois entraîneurs et dans les jours à venir, nous envisageons intégrer davantage d'encadrés pour renforcer notre équipe technique. Ce point de presse est également l'occasion de vous annoncer que l'Académie Amman est désormais enregistrée auprès de la Fédération Congolaise de Football Association FECOFA comme un centre de formation reconnu et fiable en République démocratique du Congo.
La revue de presse, Radio Mindélé au Cap, vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
La célébration de la journée mondiale des lacs et la mort de deux enfants à la suite d'un feu de brousse survenu à Moudoussa dans le territoire de Kabaré font partie des sujets commentés par la presse lundi 31 août 2026. La revue de presse avec Myriam Moufano.
Débutons cette revue de presse par Jambo RDC qui écrit « La pollution du lac Kivu inquiète les acteurs environnementaux du Sud Kivu. À l'occasion de la Journée mondiale des lacs, célébrée le 27 août sous le thème « Protection des écosystèmes », ils appellent à des mesures urgentes pour préserver ces patrimoines naturels partagés entre la RDC et le Rwanda. Les déchets plastiques, les eaux usées et d'autres formes de pollution menacent progressivement la biodiversité et les ressources halieutiques du lac. Selon Fiacre Lexi, membre du cadre de protection de l'environnement au Sud Kivu approché par ces médias, cette situation entraîne notamment la disparition de certaines espèces des poissons. Il appelle les autorités à renforcer la protection du lac et la population à mieux gérer les déchets, particulièrement les plastiques, entraînés vers les lacs pendant les pluies. Les environnementalistes soulignent que la protection du lac Kivu nécessite une mobilisation collective. Les communautés riveraines sont invitées à adopter des comportements responsables, tandis que les autorités doivent renforcer les mécanismes de protection. Cette ressource essentielle pour la pêche, le transport et plusieurs autres activités économiques doit être préservée pour les générations futures. De son côté, Kabaré Actu.info écrit et deux enfants, Ahadi Chabani, de 14 ans, et Accenti Bienfaitiza, grièvement brûlé lors d'un feu de brousse survenu le jeudi 27 août à Bouozi, Machinji, dans le groupement des Moudoussa, territoire des Kabaré, ont succombé à leurs blessures. Admis d'abord à l'hôpital général de Nyantende, ils avaient été transférés à l'hôpital général de référence de Bukavu en raison de la gravité de leur état. Les faits avaient également ravagé une partie d'un reboisement communautaire ainsi que plusieurs espèces végétales et animales. À la suite de ces décès, la nouvelle dynamique de la société civile des Moudoussa, approchée par ces médias, présente ses condoléances aux familles et appelle les autorités, les organisations humanitaires et les personnes de bonne volonté à les soutenir pour le funérail digne. La NDC demande par ailleurs l'ouverture d'une enquête pour déterminer les circonstances de l'incendie et établir les responsabilités. Elle invite en fait la population à éviter le feu de brousse, particulièrement pendant la saison sèche, et protéger les espaces reboisés afin de préserver l'environnement et réduire les risques. Bouclant cette revue de presse par la Prenelle RDC qui indique, à la veille de la rentrée scolaire 2026-2027, la CROFAM de Bukavu lance un appel à l'aide pour ses 105 enfants orphelins qui ne disposent pas encore de toutes les fournitures scolaires nécessaires. Son responsable, Jérémy Chiza, approché par ces médias, sollicite l'appui de personnes de bonne volonté et des organisations humanitaires pour obtenir notamment des cahiers, stylos uniformes, chaussures et cartables. Malgré quelques contributions déjà reçues, les besoins restent importants. Les centres font également face à des difficultés alimentaires et sanitaires, notamment le manque de médicaments pour son centre de santé qui prend gratuitement en charge les enfants et les personnes âgées. Jérémy Chiza appelle ainsi les organisations humanitaires à renforcer leur soutien au centre, à qui accueillant des enfants vulnérables. Il plaide également pour un cadre d'accueil adéquat et une meilleure sécurisation des enfants afin de garantir leur protection et leur bien-être au-delà de la rentrée scolaire, conclut la Prenelle RDC.
Par ici prend fin ce radio-journal. Emile Mouindo a assuré la mise en onde devant ce micro pour la présentation expédie Kialou. Passez des bons moments en compagnie de Radio Mendeleo. Au revoir.